Bonjour et bienvenue dans Le cinéma, c'est la vie en mieux, le podcast qui va vous donner envie de retourner au ciné. Je suis Jérôme Vermelin et je vous propose de partir avec moi à la rencontre des acteurs, des réalisateurs, des producteurs et de tous ceux qui font l'actualité du 7e art. Le cinéma, c'est la vie en mieux, parce que les émotions y sont plus belles, plus grandes, plus fortes, plus extrêmes parfois aussi. Pour certains, c'est un refuge, pour d'autres une religion. Et si le cinéma, au fond, nous aidait à aller bien ? Dans cet épisode, mon invité est le romancier français Maxime Chattam.
Je trouve qu'aujourd'hui, il y a presque plus d'inspiration pour un romancier à puiser dans la créativité de l'image, du son, des séries et des films que dans les romans.
S'il y a bien un écrivain français dont l'œuvre puise son inspiration dans le 7e art, c'est Maxime Chattam. Depuis sa trilogie du mal, au début des années 2000, ses thrillers machiavéliques regorgent de visions d'épouvante qu'on rêverait de voir adaptées sur grand écran. C'est dans le cadre du 28e Festival international du film fantastique de Gérard May, qui se déroulait cette année en ligne « Covid oblige », que je suis allé à la rencontre de ce professionnel du grand frisson. Maxime faisait cette année partie du jury qui a donné son grand prix à « Possessor » de Brandon Cronenberg et mis en lumière le renouveau du fantastique français avec des films comme « La nuée » et « Teddy » qu'on pourra voir en salle dans quelques semaines. Enfin, je l'espère. Bonjour Maxime Chattam, ça va bien ?
Bonjour, ça va super bien.
On se rencontre dans le cadre d'un festival de cinéma, vous, le romancier fan de fantastique. C'est presque une évidence, non, de participer à Gérard May ?
C'est une évidence à main de titre, en tout cas pour moi, parce que j'aime le cinéma de genre. J'ai eu le bonheur, la chance d'aller au Festival Gérard May plusieurs fois dans ma vie et j'ai toujours eu des moments incroyables là-bas. Et puis ensuite, j'ai eu avec le premier roman que j'avais écrit, qui était paru en deuxième, mais le prix, et c'était la dernière édition, je crois, de ce prix, le prix Fantastic Art du meilleur roman de genre à Gérard May en 2003. Donc ça a toujours une petite résonance dans mon cœur.
Maxime, c'est vrai que vous avez une belle salle de cinéma à la maison.
C'est vrai, oui. Mais je suis un dingue de cinéma, je suis un dingue de technologie liée au cinéma à la maison. Et donc, je m'étais fait ma salle moi-même à une époque, et puis j'avais vu mes limites de bricoleur, et donc là, je l'ai fait faire. Et oui, je passe. Je peux pas dire que je passe autant de temps dans ma salle de ciné que dans mon bureau, ce serait pas vrai, mais presque tous les jours, je descends au moins deux heures faire un film, une série, un truc, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a presque plus d'inspiration pour un romancier à puiser dans la créativité de l'image, du son, des séries et des films que dans les romans. Je trouve que les romans, globalement, ont atteint leurs limites ou en tout cas ne se renouvellent pas énormément dans la façon de raconter des histoires, alors que le cinéma et les séries télé le font beaucoup et j'ai beaucoup de choses à en apprendre régulièrement, je trouve.
Alors, est-ce que dans votre salle de cinéma, on voit essentiellement du fantastique ?
Ah non, on voit de tout. On voit de tout. Au contraire, j'aime le cinéma au sens large du terme. Après, j'identifie des choses que j'aime moins, dans lesquelles je suis moins connaisseur.
La comédie romantique.
Non, j'aime bien les comédies romantiques quand elle est bien écrite, bien faite, bien jouée. Au contraire, je peux être fan. Par exemple, typiquement, je suis pas un grand fan du cinéma asiatique en général. Et pour le coup, on parle souvent du cinéma de genre asiatique, coréen, japonais, un peu thaïlandais. Malgré tout, je continue à regarder régulièrement. J'ai quelques perles qui sont chères à mon cœur, type Memories of Murder, ce genre de choses, ou Deux Sœurs. Ouais. Donc il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup. Hein. Mais globalement, c'est vrai que je ne sais pas si c'est le barrage culturel qui m'empêche de saisir pleinement tout ce qui s'y fait, ce qui s'y raconte, la langue, etc. Mais voilà, je regarde, mais je suis peut-être un petit peu moins fan. Mais sinon, non, je regarde vraiment de tout. J'aime tout.
Alors les lecteurs qui vous connaissent bien savent que dans chaque roman, au début de chaque roman ou à la fin, je sais plus, vous donnez la playlist qui a servi qui vous a accompagné, disons pendant l'écriture. Alors pour le dernier roman, L'Illusion, donc j'ai noté, il y a la BO de Bates Motel, la BO de Dr Sleep, celle de Dark aussi par Ben Frost, une série sur Netflix, et puis aussi Basic Instinct dans un genre un petit peu moins flippant. On se refait pas, c'est quand même ce genre d'émotion que vous aimez bien ressentir en écrivant, non ?
Oui, c'est vrai. En fait, la musique pendant l'écriture, ça m'est venu parce que j'adorais justement écouter de la musique en lisant. C'est un truc que j'ai fait depuis des années. J'ai toujours trouvé que c'était super pour se couper du monde. Parce que moi, je suis un lecteur, j'aime prendre mon temps quand je lis un livre. J'aime imaginer, voir, saisir pleinement tout ce qui s'y dit, tout ce qui se raconte, les nuances, les subtilités. Donc, je lis lentement quand je savoure un livre. Et je trouve que les perturbations du monde extérieur m'embêtent quand je lis. Et donc un jour, je me suis dit, bah, tiens, je vais me mettre de la musique dans les oreilles et de la musique qui sera... C'est la vraie difficulté, c'est de trouver la bonne musique qui va avec le bon livre. Et donc, j'essaie de me faire ma playlist de lecteur. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi j'essaierais pas quand j'écris? Au début, je voulais pas parce que j'avais peur que ça me dévie un peu de ce que j'avais en tête, que l'émotion de la musique passe trop devant. Et j'ai fait des tests et je me suis rendu compte que non, il suffisait aussi de sélectionner la bonne musique au moment où j'écris. Et c'est ce que je fais. Quand j'écris un roman, je sélectionne pendant toute la préparation, la prise de notes, quand je commence à créer le roman, je sélectionne aussi les bandes originales qui peuvent m'accompagner et j'en fais tourner plusieurs dizaines.
Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas le risque, parce qu'il y a aussi des auteurs qui détestent ça, écouter de la musique en écrivant, est-ce qu'il n'y a pas le risque, en écoutant la musique de l'adaptation d'un Stephen King, de croire qu'on est en train d'écrire le nouveau Stephen King?
Ah bah, si vous avez le plaisir de croire que vous êtes en train d'écrire le nouveau Stephen King, je veux dire, j'ai pas envie de vous en priver.
Ouais, non, mais voilà, est-ce qu'on reste vraiment lucide sur sa création quand on écoute des musiques de fantastique?
Déjà, je pense qu'il faut arrêter de croire qu'on est lucide sur ce qu'on écrit. Ouais. On est tellement... Non. L'écriture, c'est quelque chose qui est viscéral, qui est un plaisir, une satisfaction intellectuelle, bien sûr. Mais on éprouve du plaisir à écrire que parce qu'à un moment, il y a un affect qui se met en place. Sinon, c'est impossible, je pense, de rendre un livre attachant si on n'en est soi-même pas attaché à ce qu'on écrit. Mais c'est comme tout, à partir du moment où vous mettez beaucoup de vous-même, beaucoup d'affect, même si vous inventez. Moi, je raconte pas ma vie dans mes livres. J'invente des personnages, des situations. Pour autant, j'y mets tellement d'émotions, j'aime tellement ce que je fais, je suis tellement satisfait quand le livre sort parce que j'ai décidé que celui-ci méritait d'être publié, que c'est comme tout romancier, on faut être lucide, on ne voit pas son livre pour ce qu'il est et tel qu'il est réellement. C'est comme ses enfants. Hein. Je peux vous garantir, quand vous regardez les photos de vos enfants 10 ans plus tard et vous dites « Ah, je trouvais que c'était la plus belle merveille du monde » et quand je vois les photos aujourd'hui, je dis « il ou elle est devenu très beau aujourd'hui » mais à l'époque, finalement, pas tant que ça. Mais on n'est jamais lucide sur ses enfants et les romans sont nos enfants.
Alors, pour revenir sur le fantastique, est-ce qu'il y a un film, hein, qui est à l'origine de votre passion pour le genre? Comme ça, là.
Oh, c'est dur à dire, parce qu'un film, j'aurais du mal, j'en aime tellement. J'ai un souvenir très lointain, très jeune, d'avoir vu un jour Aliens, le 2, donc de la saga Aliens, celui qui est fait par James Cameron. Et j'ai eu des angoisses terribles. J'étais jeune, hein, j'ai plus le souvenir exact, mais j'avais 11 ou 11 ans, quelque chose comme ça, 10-11 ans. Et j'ai vraiment eu des moments très angoissants. Donc oui, peut-être celui-ci, ou alors le premier film de genre que j'ai vu au cinéma, qui était Cimetière, de Mary Lambert, qui était adapté de Stephen King, justement. Et j'avais truandé pour rentrer, parce qu'il était interdit aux gens de mon âge, donc je sais plus à quel âge j'avais, mais j'étais jeune, j'avais pareil 11 ans, quelque chose comme ça. C'était la même époque, et je me souviens de mes émotions dans une salle de cinéma à voir ces choses-là, et j'ai pris une claque.
La transgression, ça fait partie du plaisir dans le genre, non? Et le fait de pas avoir le droit, mais d'y accéder quand même, ça fait partie du plaisir, non?
Je pense que c'est une étape rituelle pour beaucoup d'amateurs de cinéma de genre. C'est un moment jeune d'être passé à travers l'interdit, de se dire, ok, ça, je suis pas censé le voir, mais je vais quand même le regarder. Et on a envie, hein. On est en sécurité, même si on l'est pas d'un point de vue émotionnel, en réalité. Et ça fait partie des codes du genre. Mais c'est encore le cas quand on est adulte, c'est que finalement, adulte, on aime un autre genre de cinéma, y compris dans le cinéma fantastique. Hein. Mais on va être touché par des films qui vont justement nous bousculer dans nos interdits, dans nos tabous, dans ce qui va vraiment nous déranger dans un film, c'est ce qui nous dérange individuellement chacun. Donc c'est la force de certains films.
Est-ce que vous avez facilement la trouille au cinéma? Aujourd'hui? Pas du tout?
Pas du tout. Et pourtant, je regarde une salle seule, souvent dans le noir, qui est au sous-sol, qui est avec le son très très fort, des enceintes tout autour de moi jusqu'au plafond, sur un immense écran. Donc je suis vraiment plongé dedans. Je pourrais vraiment facilement être embarqué et avoir peur. Non. Et d'ailleurs, je me rends compte parce que souvent, quand les films s'arrêtent et que c'est fini, pour remonter à l'étage, j'allume aucune lumière. Je me guide juste un peu avec le halo du téléphone si je me plante les pieds dans quelque chose. Mais non.
Même les fameux jumpscares, c'est les effets de montage qui font sursauter tout le monde dans les séances ?
Non, parce que déjà, je trouve que quand on s'intéresse au cinéma, les trois quarts du temps, on le voit venir.
Ouais.
On comprend à la mise en scène que c'est bon, ça va venir. Et quand ils sont vraiment bien faits, parce qu'ils jouent habilement de ça, de ces codes, etc., ils nous prennent un contre-pied, ou que c'est très bien fait, non. Alors, intérieurement, parfois, je vais un peu sursauter, mais physiquement, ça se verra pas. Stoïque jusqu'au bout.
Maxime, est-ce que vous écrivez les romans que vous aimeriez voir au cinéma ? Adapté au cinéma. Est-ce que vous écrivez les films, pardon, que vous aimeriez voir au cinéma ?
Parfois, oui. Parfois, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que je n'écris jamais un livre en me disant « il faut penser à l'adaptation, parce que sinon, on se bride et c'est impossible ». Donc, ça, jamais. En revanche, il m'est arrivé, notamment sur un livre particulier, qui est « Prédateur ». Ce livre, il est né d'une passion de cinéphile. Un jour, je me suis dit « tiens, ce serait sympa, une histoire type Seven ou Silence des agneaux, donc un bon gros polar avec un tueur en série, mais dans un contexte à la « Il faut sauver le soldat Ryan », un contexte de guerre avec une mise en scène extrêmement premier degré, très violente, dans laquelle on interroge sans cesse le spectateur sur finalement la raison de tuer quand c'est une raison d'état, de nation, et la raison de tuer quand c'est une obsession pour survivre par rapport à ses propres émotions. Qu'est-ce que ça raconte d'une société et de ceux qui traquent ce type-là, et voilà, le droit de tuer. Qui, finalement, a le droit de le donner et de le prendre. Et donc, je trouvais que ça aurait été un film super. Et bah, comme ça n'existait pas, j'ai écrit un roman qui parlait de ça, alors en me disant juste que comme c'était mon livre, je pouvais y mettre tout ce que je voulais. Et donc, c'était un budget, je pense, à 300 millions de dollars.
Ouais, ouais. Mais il n'y avait pas un projet d'adaptation en série de Predator ?
Si, c'est en cours, ouais, c'est en cours. Mais justement, parce que ça fait partie des rares livres pour lesquels j'ai accepté de lâcher mes droits. Parce qu'en fait, les producteurs qui sont venus me voir m'ont parlé un langage qui me parlait, justement. Et, ouais. Et ils sont venus avec beaucoup d'ambition, ce qui fait que c'est très compliqué à monter. Mais ça continue. Voilà, j'espère qu'on va aller au bout du process, c'est en cours, mais justement parce qu'ils ne veulent pas transiger sur des choses qui nous semblent fondamentales, les choses sont compliquées à mettre en place.
En ce moment, la télévision et le cinéma, mais surtout la télévision, s'intéressent beaucoup aux auteurs de thrillers français. Ils se sont rendus compte que les meilleures histoires, c'était vous qui les écriviez, vous, Franck Tillier, Nico Takian, qu'il y avait de la matière. Là, c'est, j'allais dire, enfin.
Oh, je sais pas, parce qu'il y a aussi les scénaristes télé qui sont très doués, mais il faut pas oublier une chose, c'est que les scénaristes télé, ils font ce qu'on leur demande aussi.
Faut ils répondent à des cahiers des charges.
Mais c'est ça, je veux dire, quand pendant des années, les chaînes disent, nous on veut ça, par contre, dès qu'un scénariste avec un truc plus original, plus, on va dire même pour nous, plus sympa, c'est pas complètement plat, tellement ça cherche à être tout public, les chaînes disent, non, c'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, ça commence à bouger un peu, c'est parfois difficile, mais ça vient. Et du coup, forcément, je pense qu'aussi, ils s'intéressent à ce que peuvent faire les auteurs. Donc, tant mieux.
Vous, à part Prédateur, il y a d'autres projets ?
Alors, il y a des projets, mais je lâche pas mes droits comme ça. Et j'ai besoin d'être convaincu. Ouais. Si on vient me voir en me disant « Ouais, super, on a aimé ton livre, on voudrait le faire. » Et on va te filer un chèque, j'ai envie de dire, ça va pas me suffire, il va falloir m'expliquer ce que vous voulez en faire en fait. Et comme j'ai la chance de pas avoir besoin de ça pour vivre, je m'autorise à dire non assez régulièrement.
Et écrire directement pour la télé ou le cinéma, c'est envisageable ou au fond vous avez une telle liberté dans votre bureau chez vous que c'est pas la peine d'aller se frotter à une team de scénaristes ?
J'ai une telle liberté, comme vous le dites, que j'ai du mal à lâcher ça et qu'on m'a proposé pendant des années de le faire. Ouais. J'ai toujours dit non. Et j'ai dit oui récemment parce qu'à un moment, je suis un moment de ma vie où j'ai envie d'un petit défi intellectuel supplémentaire. Je lâche pas mes romans parce que j'ai cette liberté qui m'éclate. J'adore écrire, j'en ai besoin pour être un homme épanoui. Mais du coup, j'essaye aussi de trouver un peu de temps. Et là, je bosse sur des projets en ce moment pour le petit écran.
Entre les deux, entre un roman et une séance de cinéma.
Exactement.
Vous avez aussi réalisé des courts-métrages, Maxime. La caméra, c'est le plateau pour le solitaire que vous êtes, c'est facile ou c'est pas indispensable ?
C'est facile dans le sens où quand j'étais sur un plateau pour les courts-métrages que j'ai pu faire, je me sentais totalement dans mon élément. Je mange de la pellicule depuis que je suis gamin, j'adore ça, j'ai pas fait d'école de cinéma, mais j'aime ça, j'aime la technique du cinéma. Et quand j'ai pu faire des courts-métrages, quand on venait me chercher, notamment Canal par exemple, je ne l'ai fait que parce qu'ils me laissaient justement faire ce que je voulais. Ouais. Moi, je leur avais dit, mais je veux tout choisir, y compris le chef-op, tout. Parce que j'ai, sur le plateau, en fait, j'ai une vision très précise de ce que je veux faire et j'ai envie d'avoir tout toute une équipe qui va m'aider à réaliser cette vision et pas qu'on me dicte trop ce qu'il faut faire parce que je ne suis pas du sérail. Et en fait, au contraire, les équipes étaient superbes. Ils se sont mis en quatre pour aller dans la direction que j'avais envie, en tête et tout. Mais c'est vrai que quand on écrit un roman, moi, je suis hyper descriptif parce que je vois les choses. Mais quand je fais quand je suis passé derrière la caméra, c'est la même chose. Je savais précisément jusqu'à passer des heures avec l'équipe de la costumière parce que je voulais tel type de matériel, de matière, avec tel type de couleurs, etc. pour tel comédien, tel machin. Parce qu'à la caméra, j'avais une idée précise de comment j'en jouerais avec les lumières. Je voulais qu'on identifie un personnage avec sa couleur parce que la couleur peut raconter des choses sur les émotions. Il y a ce qu'on montre et puis il y a ce qu'on sous-entend et puis il y a ce qui est caché dans l'image. Et j'avais envie de travailler sur tous ces plans-là. Donc ça, c'est un truc qui me passionne. Je crois que j'adorerais faire des films, mais j'adorerais faire des films tels que je les ai en tête. Et ça, c'est quand même déjà plus compliqué parce que forcément, on parle beaucoup d'argent. Et voilà, je peux pas débarquer en disant « les gars, j'ai envie de faire un film, ça coûtera 15 millions d'euros, mais faites-moi confiance.
» Bien que vous ayez un public fidèle et j'allais dire des spectateurs potentiels déjà. Enfin, ils sont là, quoi, les fans.
Oui, mais
c'est vraiment deux mondes différents.
Ouais, je pense, parce que l'économie de l'un n'est pas l'économie de l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je dis, voilà, j'ai vendu 10 millions d'exemplaires et je peux vendre un bouquin à 200 000 exemplaires à sa sortie, super. Mais 200 000, si on fait 200 000 personnes en salle...
C'est pas top, hein.
Non, sur un gros film avec un gros budget, ça suffit pas. Donc c'est pas les mêmes économies, c'est pas les mêmes dynamiques.
Maxime, pour terminer, ça va être la question rituelle à tous mes invités, je vous la pose. Est-ce que le cinéma, c'est la vie en mieux ?
Parfois, c'est la vie en pire aussi. C'est une autre vie et c'est la magie du cinéma. C'est que pendant 2 heures, vous avez le droit de vivre une autre vie. Donc autant de films que vous verrez seront autant de vies que vous pourrez vivre.
Ok, ben merci beaucoup Maxime.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
Vous venez d'écouter le 4e numéro du podcast « Le cinéma, c'est la vie en mieux » avec Maxime Chattam. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et je vous invite à le liker, le partager et en parler autour de vous. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité et d'ici là, bonne séance de cinéma.